machiavélisme. Et le machiavélisme. Jean Cottreau, psychiatre et psychothérapeute français, nous accompagne cet après-midi. Comment on s'en sort quand on est atteint de cette... C'est une maladie, hein?
Si vous êtes concerné d'ailleurs, oui. Chers auditeurs d'Europe 1, vous pouvez nous appeler en direct au 01 80 20 39 21.
Jean Cottreau.
Oui, sortir de face à une triade noire.
Oui.
Alors tout dépend comment. Il y a plusieurs cas de figure. On va plutôt prendre le cas de figure face au narcissique. Parce que les narcissiques, on parle beaucoup du pervers narcissique, mais c'est la forme maximum. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle le narcissique malveillant. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est la fuite. Mmh. La seule victoire, c'est la fuite. Oui.
La seule victoire, c'est l'échec, exactement.
En vous posant la question, je me disais, est-ce que ça se soigne quand on a la triade, quand on est atteint d'une triade?
Mais non, ils ne viennent pas, non, ou alors ils viennent pour vous mettre en échec.
Les narcissiques malveillants ne viennent pas, ou alors à l'occasion d'une forte dépression.
En fait, ils viennent s'ils sont très isolés, qu'ils n'ont plus de cible.
Il y a un moment où la personne réussit, il réussit à avoir du pouvoir sur les femmes, sur les hommes, sur les collègues, puis à un moment, il y a un barrage qui s'établit, et la personne... se trouve éjecté. À ce moment-là, il déprime, et en général, ce qu'il vient demander au psy, aidez-moi à voir d'autres techniques. J'ai vu que vous aviez d'excellentes techniques pour manipuler les autres encore plus.
Oui,
et c'est souvent ça que j'ai eu comme demande dans ma pratique.
Oui. C'est aussi clair que ça.
C'est dit très clairement. Oui. Hein.
Ou alors, ils viennent, et c'est assez redoutable, c'est d'ailleurs une des limites aux médiations dans les divorces, ils viennent pour mettre en échec. Le thérapeute. Ils viennent vous narguer avec tout leur art de la manipulation et ils peuvent aller dire au conjoint, bah, tu vois, le thérapeute m'a dit que moi j'étais parfaitement normale, toi t'es complètement dépressif par contre. Et donc là, ils vont faire du gaslighting en utilisant une figure de psy, psychiatre, psychologue, peu importe, qui dit, ah ben non, mais vous n'êtes pas un pervers manipulateur, c'est votre femme qui est dépendante affective, dépressive ou je ne sais quoi. Et donc là, ils utilisent cette sorte de validation, d'ordonnance, enfin de certificat de bonne santé mentale pour dire aux autres, c'est vous qui avez un problème. Mais ça, c'est assez redoutable. Mais il y en a, on les voit venir parfois, arriver, notamment dans les divorces.
Ils viennent aussi pour humilier le thérapeute,
oui. Oui, voilà aussi, ça,
pour humilier le thérapeute.
Je me souviens d'une qui était arrivée, qui s'est plantée devant moi, qui m'a dit, qu'est-ce que vous avez à me vendre? J'ai dit, écoutez, ici, on ne vend rien, c'est le service public. Est-ce que vous avez des choses, des problèmes? Non, pas du tout. Je dis, bah, on va arrêter là, la consultation.
Puisque vous l'aviez repéré tout de suite?
Ça peut se repérer simplement dans la façon dont les gens
vous
toisent.
Dans la posture, oui.
Il faut voir, et ensuite ils se posent, et ils regardent de haut, et ils disent, mais qu'est-ce que vous avez à me vendre? Avant même d'avoir dit bonjour, ou à peine. Ouais. Donc c'est une attitude qui est décodée très très vite. L'attitude narcissique... C'est l'attitude hautaine. Mmh. Alors là, on est devant la forme extrême du narcissisme.
C'est l'ego flamboyant, c'est le patient qui s'assoit et qui vous regarde droit dans les yeux parce que vous êtes une jeune psychologue et qui s'amuse à vous déstabiliser. Il vous dit, bon alors je vous préviens, tous les précédents ont échoué avec moi.
Il vous lance un défi.
Laissez la place à la personne suivante qui a envie de travailler sur elle. Merci beaucoup.
Marie-Estelle Dupont, vous vouliez revenir sur les personnalités borderline.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire de très important sur les personnalités borderline, c'est que toutes ces difficultés relationnelles prennent évidemment leur source dans une insécurité affective qu'on a évoquée, mais donc dans une constitution complètement faussée de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ont une image extrêmement dépréciée d'elles-mêmes, qui tentent coûte que coûte de rafistoler, parfois y compris par des symptômes de type addiction. Hein. C'est des gens qui sont beaucoup plus enclins à avoir des addictions, des surconsommations d'alcool, des équivalents suicidaires avec des scarifications, des troubles du comportement alimentaire qui durent dans le temps et qui sont pas juste réactionnels ou dépressifs après un deuil, par exemple. Hein. Il y a toutes sortes de troubles alimentaires, mais... et les personnalités borderline, elles ont vraiment une estime d'elles-mêmes qui est morcelée. Leur image du corps même, on se rend compte, est souvent extrêmement changeante d'un jour à l'autre. Ils ne se perçoivent pas de la même manière dans la glace. Ça peut aller jusqu'à des vraies difficultés identitaires. Alors, par exemple, une demande de transidentité, vous en parlez dans le livre, mais ça peut être aussi des moments de dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'impression d'être dans leur corps, des moments de profonde dissociation, qui peut les mettre en grande vulnérabilité, par exemple, dans leur sexualité, parce qu'ils vont avoir des femmes qui vont avoir des épisodes où elles vont éviter leur dépression quand elles sont borderline, en allant dans une espèce de sexualité compulsive. On imagine bien à quel point une jeune fille va pouvoir se mettre en danger avec des hommes justement qui vont un peu en abuser en la sentant vulnérable. Et donc, ils sont enclins à avoir des conduites à risque, les personnes borderline, hommes ou femmes. Alors, l'homme va plus conduire très vite et puis peut-être la femme va avoir plus des crises de boulimie en vomissant, mais il y a parfois des petites différences dans la symptomatologie. Mais ils vont se mettre en danger parce que leur estime d'eux-mêmes et leur image d'eux-mêmes est très, très mal construite. Et c'est là qu'on voit bien l'impact des premières figures d'attachement, des premiers miroirs parentaux qui ont renvoyé ou pas une image à l'enfant cohérente, constante et valable, qui authentifie ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que ce sont des gens qui nous font vivre de profondes envies, parce qu'ils mettent sur nous, ils vomissent sur nous leur monde émotionnel. Donc évidemment, on a des envies de les rejeter très violemment. Et je pense que c'est toujours important de se rappeler qu'on n'a pas à réparer ce qu'on n'a pas cassé, on n'a pas à soigner nos proches. En revanche, c'est vraiment important d'essayer de les conduire vers les bonnes mains thérapeutiques, parce que c'est vraiment des gens qui vont aller se faire mal de manière répétitive. Vous en parlez d'ailleurs dans la répétition des scénarios de vie. Vous pouvez en dire un mot aux auditeurs d'Europe 1 ?
Oui, je pense qu'un des critères, c'est la sensation de vide intérieur. Donc, quelquefois, ils s'automutilent pour se redonner de la vie. Et donc ils font peur aux psychiatres. À une époque, les psychiatres en avaient énormément peur. Et je pense que c'est des patients qu'on aborde. Vous abordez très jeune les borderline, mais nous on abordait ça au bout de très longues années de formation. On s'est dit on peut y aller quand même. Et on a eu de bien meilleurs résultats qu'on croyait. Finalement, c'est pas si difficile quand même, à condition d'avoir une équipe et d'être très soutenu, d'être nombreux pour soutenir le choc.
Parce que je me suis retrouvée en libéral à avoir des patients borderline. C'est effectivement des patients avec lesquels on se dit on a besoin de nous d'avoir la contenance de l'équipe, parce que apporter tout seul, ça va être compliqué pour le patient et ça va être compliqué pour moi parce que le transfert est chaotique. En fait, ce qu'il projette sur nous est très chaotique en fait, intense.
C'est chaotique. Mais avec un bon
et
métier
passionnel.
Et une bonne formation, comme vous avez dû en avoir, ça devient quelque chose d'assez quotidien maintenant. On arrive à des résultats.
Se soigne comment ? Avec des médicaments ? Avec une psychothérapie ?
Essentiellement, ce qui marche chez les borderline, c'est la thérapie cognitive et les thérapies psychodynamiques aussi qui ont montré des résultats.
Vous pouvez nous rappeler brièvement la différence entre les deux ?
La thérapie cognitive se centre sur les schémas cognitifs de personnalité et cherche à les modifier. Et la thérapie psychodynamique c'est plutôt un dérivé de la psychanalyse, mais très très pragmatique. C'est en face à face. Il faut absolument pas les allonger sur le divan parce que se dépersonnalise, c'est très grave. Il faut au contraire être très contenant. Et donc il faut quand même compter une bonne année de thérapie et ensuite un suivi. Un suivi relativement long pour maintenir le résultat. Et on a fait une étude contrôlée, le Lyon-Marseille. On a eu un bon résultat avec une année de thérapie. Mais la plupart des patients ou patientes, c'est plutôt des patientes, disaient on a encore besoin de suivi. On a maintenu des suivis très très longs, et quelquefois sur des années, mais espacés. Donc finalement, c'est pas si difficile que ça.
Alors c'est pas si difficile à condition que le patient borderline ne cède pas à sa fragilité principale, qui est l'instabilité dans le fait d'aller aux séances ou de ne pas aller aux séances. Mmh. Et parfois, il passe à l'acte et il annule la séance et il ne se voit pas faire. Mmh. Et donc, c'est difficile d'avoir des résultats avec ceux qui n'arrivent pas à intégrer qu'il faut vraiment y aller de manière disciplinée régulièrement, surtout au début, pour pouvoir avoir des résultats. Vous n'avez pas beaucoup de borderline qui ont annulé les consultations ?
Non. Dans l'étude contrôlée qu'on a faite, c'était plutôt le groupe contrôle qui était un suivi rogérien où on écoutait les gens poliment, qui sont partis. Au contraire, on a eu une meilleure rétention des borderline.
Ah oui.
Mais c'était le service public aussi. C'était la dernière chance.
C'était pas le cabinet en libéral.
Non, c'est pas en libéral. C'était un contrat de recherche qu'on avait fait sur la prévention du suicide et de la personnalité borderline. Donc, on a eu un très long suivi. On a eu aussi des associations, comme vous le disiez tout à l'heure, avec un trouble bipolaire deux fois, qu'on n'avait pas diagnostiqué au départ, parce qu'il était camouflé. Donc on a dû aussi intervenir au niveau pharmacologique, comme vous le disiez. On peut être amené à donner des médicaments qui normalisent l'humeur pour les formes qui sont associées avec un trouble bipolaire.
Marie-Estelle Dupont, on peut peut-être revenir sur le premier mot de votre édito, vous en souvenez ? Jalousie. Jalousie, envie, oui. Chantage, jalousie.
Mais d'ailleurs, vous m'avez dit il n'y a pas très longtemps, en travaillant au Romain des Arbres, un jour, il faudra qu'on parle de la jalousie.
Bah oui, ça, alors
ça,
jalousie.
Ça ouais. Dans le genre, je pourris la vie des autres, le jaloux est bien. Hein.
Ouais, ouais. On fera une émission entière, mais déjà là, dans ce cadre, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Bah, la jalousie, c'est vrai que c'est une modalité sociale qu'on n'identifie souvent pas, c'est ce qui lui donne d'ailleurs un avantage considérable, et qui est en fait l'explication d'un grand nombre de problèmes, que ce soit au travail ou que ce soit dans la famille. Et moi, je rassure toujours mes patients qui me disent « Ah, je suis épuisée par la jalousie de tel collègue qui sabote, qui machin, qui fait disparaître des trucs, qui ceci, qui cela. » Et je dis toujours « Mais vous savez, la jalousie, c'est de l'admiration mal emballée. Hein. » Et finalement, le jaloux est d'abord quelqu'un qui... en fait, vous n'êtes pas tellement concerné par la jalousie. Vous en subissez les conséquences, mais ça ne parle pas de vous, la jalousie. Ça parle de la personne jalouse, la personne envieuse, qui, au fond d'elle, a certainement un sentiment profond d'insuffisance ou d'injustice ou d'avoir été spoliée de quelque chose de fondamental dans sa vie. Les mères jalouses sont souvent des femmes qui ne supportent pas que leur fille devienne une femme parce qu'elles, elles ont le sentiment de ne pas avoir eu quelque chose et que donc le regard des autres sur leur fille leur retire quelque chose qu'elles auraient dû avoir, elles.
C'est ce que vous avez vécu.
C'est ce que
j'ai
vécu.
Vous avez écrit dans votre livre.
C'est ce qui explique parfois la jalousie entre femmes, c'est-à-dire que l'attention des autres est un gâteau, et donc si les autres en ont une part, j'en ai une part plus petite. Et donc je disparais dans le fait que l'autre existe, alors qu'en réalité, comme on est des êtres de relation, on a évidemment besoin que les autres existent pour exister. Et je crois que la jalousie, c'est une admiration qui n'a pas... c'est une admiration qui se serait plutôt associée, pour le dire de manière un peu humoristique, avec la paresse qu'avec l'intelligence. C'est-à-dire que, bah oui, je vois quelqu'un qui finalement s'en sort bien à traverser l'adversité et puis fait des choses intéressantes. Je suis jaloux, cette personne a de la chance. Oui, non, mais lui, c'est facile, c'est son père qui lui a donné tous les filons, tous les tuyaux, etc. Et donc, avec une mauvaise foi énorme, parce qu'on ne reconnaît pas que la personne qui a reçu quelque chose a quand même eu le mérite de le maintenir, de l'entretenir et de le développer. Et qui finalement, nous renvoie à l'image que cette personne a d'elle-même et de sa certitude que il n'y a rien à faire, elle n'a pas de chance, donc c'est pas la peine qu'elle fasse des efforts, elle n'y arrivera pas parce que l'autre a des qualités que elle n'a pas. Et très souvent, le jaloux, il ne vous envie pas ce que vous avez ou ce que vous faites, il voudrait simplement que vous ne l'ayez pas ou que vous n'y arriviez pas. Voilà, ça lui suffirait. J'ai pas envie d'être à ta place, j'ai pas envie d'avoir des enfants, j'ai pas envie de... Mais j'aimerais bien que tu n'aies pas tout ça quand même. Voilà. Et donc évidemment, le jaloux a une gamme d'outils pour pourrir la vie de ses proches qui est tout à fait spectaculaire et qui demande d'avoir du recul et du détachement. Alors là, évidemment, la première règle avec un jaloux, c'est d'autoriser les autres à se tromper sur nous et de n'en avoir strictement rien à faire de ce qu'ils pensent de nous. Ce qui est évidemment une qualité dont il va être jaloux. Mais bon, quand on est enfermé dans sa boucle, on est enfermé dans sa boucle.
Le jaloux souffre d'être jaloux ?
Alors je crois que le jaloux, je crois surtout que les gens heureux ne sont pas jaloux. Je crois que quand on est heureux de sa vie, qu'on se responsabilise dans sa vie, on peut supporter d'avoir des moments de très grandes difficultés et se réjouir que nos amis soient heureux. Voilà, on va pas dire « Ah ben non, moi je veux pas aller au mariage de ma copine parce que je suis toujours célibataire. » Quand on est heureux, quand on est bien avec soi, on peut dire « En ce moment, pour moi, c'est difficile, mais je suis vraiment heureuse que tel proche, tel ami, tel frère vive un grand succès et je peux me réjouir pour eux. » Et le bonheur se nourrit aussi d'être capable de se réjouir du bonheur des autres. Voilà, ça c'est pour les spéciales dédicaces pour les jaloux. Rappelez-vous qu'être heureux, être heureux pour les autres, c'est aussi une source de bonheur et de satisfaction. Donc oui, je crois qu'ils sont malheureux parce qu'ils vivent dans une profonde frustration et que je crois que quand notre principale nourriture narcissique consiste à écraser les autres pour essayer de se grandir soi-même, c'est qu'au fond de nous, on a beau se raconter des salades, on a une piètre opinion de soi-même. Je crois que quand on a fait des choses intéressantes, qu'on sait ce qu'on a été capable de faire, on n'a pas besoin de rabaisser les autres. Ce sont quand même des techniques de caniveau.
Jean Cottreau, qu'est-ce que vous avez à dire sur la jalousie ?
Il y a deux niveaux de jalousie.
Oui.
Il y a ce que vous avez décrit, c'est le narcissique instable, c'est le syndrome d'is no good. Donc, c'est être calife à la place du calife et ne jamais y arriver. Donc c'est comme ça que ça se passe dans les boîtes et ça peut être très très toxique dans la relation au travail.
Dans les entreprises, oui. Oui.
Et ça peut être aussi très très toxique à vivre, de vivre avec un homme ou une femme qui se plaint toujours de ce que les autres lui ont fait alors que c'est pas vrai. Et il n'y a pas de satisfaction interne de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu. Ça, c'est un premier niveau. C'est le narcissique instable. Il y a le narcissique à haut niveau de fonctionnement qui est un peu le dirigeant, le cadre flamboyant. Tant que ça marche, qu'il y a des admirateurs, ça marche. Il y a le narcissique instable. Et puis, il y a ce qu'on appelle le pervers narcissique ou le narcissique malveillant. C'est les trois niveaux du narcissisme.
Alors, je ne vais pas être très gentil, mais je vais dire que souvent, les jaloux, hein, c'est des narcissiques qui ont raté.
Oui, exactement.
Qui s'aiment pas assez, c'est ça.
Ouais. Ils sont moins jaloux quand ils ont beaucoup de...
C'est la psychologie du loser, c'est is no good, c'est is no good. C'est pour ça que ce personnage est si connu, c'est parce que il reflète bien ce qu'on peut rencontrer dans la vie. Les gens, quand ils lisent mon bouquin, ils disent « mais c'est des gens que j'ai côtoyés tout le temps ».
Ah oui, votre livre est génial.
Alors, il y a un autre niveau.
On rappelle le titre, peut-être.
« Se libérer de l'emprise et des personnalités toxiques » chez Odile Jacob.
Par Jean Cottreau.
Il y a un autre niveau qui est beaucoup plus grave, c'est le jaloux paranoïaque qui est dans l'hyper-contrôle, et c'est là où est le vrai danger.
Avec risque de féminicide. Hein, quand
avec un risque de meurtre, d'ailleurs, quelquefois. Hein, donc, c'est là où on voit les féminicides, en général. C'est une conjonction de prise de drogue, d'alcoolisme et de paranoïa. Et de personnalité paranoïaque, à ce moment-là, il faut exfiltrer très rapidement. Le problème qu'on a eu, nous, à un moment, c'est dans notre équipe, c'est d'exfiltrer une collègue d'une relation. On l'a mis en position de ghosting pour la libérer d'un personnage paranoïaque qui envahissait sa vie et la contrôlait totalement.
Il faut vraiment comprendre que quand on a affaire à quelqu'un de jaloux dans son environnement, vous ne pouvez, n'essayez pas de vous torturer le cerveau pour savoir comment vous positionner pour amoindrir sa jalousie. Parce que sa jalousie, elle est intérieure à lui, elle ne dépend pas de ce que vous faites. C'est-à-dire, vous pouvez être sur un lit d'hôpital en train d'agoniser d'une maladie. Si votre belle-sœur est jalouse de vous, elle sera jalouse de vous parce que du coup vous avez de l'attention des autres ou parce que vous êtes courageuse dans votre maladie, etc., etc. Donc le jaloux, il fait feu de tout bois. Donc si vous avez des problèmes, il est content que vous ayez des problèmes. Et si vous faites bonne figure, c'est insupportable. Si vous pleurez, c'est insupportable. Vous ne pouvez pas gagner. Donc en fait, il faut pas s'en inquiéter. Voilà, ils font partie de la vie. Ils pourrissent la vie des gens, mais ils la pourrissent aussi à la mesure du pouvoir que vous leur accordez. Donc déjà, si vous ignorez totalement ce qu'ils peuvent penser de vous et qu'ils sentent qu'ils n'ont aucune prise émotionnelle sur vous, que vous vous en protégez, parce que parfois dans le boulot ça fait des gros sabotages, on peut aussi partir et aller travailler ailleurs, et dans la famille surtout il faut faire comprendre aux autres que cette jalousie existe, parce que le problème c'est que dans les familles il y en a beaucoup qui sont dans le déni de la jalousie, c'est-à-dire qu'on se dit mais dans la famille il ne peut pas y avoir de jalousie, et en fait la famille est quand même le principal lieu de la jalousie, les notaires en savent quelque chose avec les successions interminables.
Marie-Estelle Dupont, l'heure tourne, hein, évidemment, mais il nous reste encore un peu de temps pour parler de la genèse de la personnalité. Comment se forme une personnalité? On dit, tiens, il a telle personnalité, il est comme ça. C'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge?
Alors d'abord, c'est important de rappeler que la personnalité, c'est à la fois un peu inné et un peu acquis. Quand on observe un bébé, quand on a plusieurs enfants, on dit bien, tiens, l'aîné, il était plus comme ça. C'est-à-dire que le bébé, quand il arrive au monde, il a un style, il a un tempérament. Il y a des bébés beaucoup plus calmes, il y a des bébés très, très réactifs, il y a des bébés très en demande, il y a des bébés qui ont un tonus plus relâché. Enfin, avant, on disait, il y a des phlegmatiques, il y a des lymphatiques, il y a des sanguins. C'est-à-dire, il y a un tempérament qui arrive, qui est inné, sur lequel vous n'avez pas de prise. Alors, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est... En tout cas, ça arrive, c'est là, c'est inné. On le sait maintenant avec les recherches quand même en embryologie, en obstétrique, qu'il y a vraiment des choses qui se jouent aussi pendant la grossesse, qui influent sur la nervosité du bébé notamment. Et puis, il y a tout ce qui va se jouer dans les identifications précoces. Est-ce que les parents arrivent à donner une stabilité, une sécurité émotionnelle au bébé, à ne pas lui faire vivre des états de détresse prolongés en étant inadapté dans les soins? Et donc ça va commencer à mettre en place les premiers traits de la personnalité, du caractère de l'enfant. La personnalité va se fixer définitivement à la fin de l'adolescence. C'est-à-dire que petit, on peut repérer déjà des personnalités qui pourraient être un petit peu compliquées. Mais Tout n'est pas fixé. Je veux rassurer les auditeurs d'Europe 1. Avant 6 ans, et c'est fini, et c'est foutu avec celui-là. Non, à l'adolescence...
Mais d'où l'importance quand même de repérer certains dysfonctionnements, certaines maladies, certaines pathologies.
Oui, parce que parfois, bah, on a un biais quand c'est nos enfants, c'est que comme on a le nez dessus, on est suradapté à la réalité de notre enfant, et on ne voit pas qu'il y a des petits signaux faibles. Mmh. Par exemple, quand on accueille un patient de 17 ans en urgence psychiatrique qui est en train d'entrer dans la schizophrénie avec une bouffée délirante, on s'aperçoit à l'anamnèse qu'il y avait quand même des étrangetés, des bizarreries quand il était tout petit qui sont passées sous les radars. Mmh. Mais en tout cas, elle se fixe à l'adolescence, la personnalité, et c'est évidemment le précipité à la fois des interactions précoces, de la parinée, puis des expériences, parce que s'il y a des traumas lourds pendant l'enfance, et ben ça peut faire d'un enfant qui était naturellement extraverti un grand introverti parce qu'il se protège. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on s'en donne la peine, le travail introspectif peut... Alors, il ne va pas changer la structure de base, mais il peut permettre quand même qu'on améliore nos relations aux autres, même si on a certaines fragilités dans notre construction personnelle.
C'était « Et si on en parlait ?». L'émission revient aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui jeudi, avec un nouveau thème, la dangerosité psychiatrique et la dangerosité criminelle. Donc rendez-vous de 15h à 16h sur Europe 1, en compagnie toujours de Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres, qui par ailleurs sera l'invité média de Thomas Hill quelques heures plus tôt dans Culture Média. Romain Desarbres, invité de Thomas Hill, ce sera entre 10h et 10h30 ce jeudi sur Europe 1. Allez, à suivre la libre antenne en nouvelle diffusion et puis la musique qui a toujours sa place la nuit, avec tout de suite le dernier titre en date de Jérémy Frérot, Tout l'or du monde.
Je bomberai pas le torse pour être plus fort, je crierai pas pour que l'on soit d'accord, je vais pas soulever les trophées, jouer au cador, j'irai pas chercher la gloire ni la médaille d'or. Je m'en fous d'être le chef, je m'en fous de faire la prêche, je m'en fous d'être plus rapide, je m'en fous d'être plus solide, je m'en fous d'être le premier. Je veux être celui sur qui on peut compter. Perdu dans ce décor, tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Comme la rivière qui serpente au gré des vallées. Je suis liquide, avec mes fils on fait des ricochets. Sur l'Atlantique, en équipe, on sèche les cours de la vie et les remous du cœur. On se paye un tour gratuit. Tant pis pour les chiffres, tant pis pour la frime, tant pis pour la fame, tant pis pour le fric, tant pis pour la légende, tant pis pour ce que vont penser les gens. Perdu dans ce décor, tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire, contre un monde sans vainqueur. J'suis pas le plus fort, j'suis pas le plus solide. Quand le jour s'endort dans mon lit, j'ai peur de mourir. J'suis pas le plus fort, j'suis pas le plus rapide. J'm'en fous d'être le premier, je veux juste être celui sur qui tu peux compter. Tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur.
Tout l'or du monde, Jérémy Frérot qui poursuit sa grande tournée à travers la France avec des concerts prévus à Grenoble le 30 janvier, à Lille le 5 mars ou encore à Paris, au Zénith de la Villette, ce sera le 20 mars. Allez, vous restez avec nous, c'est l'heure de vous écouter vos confidences. C'est la libre antenne en nouvelle diffusion que vous retrouvez donc tous les soirs de 22h30 à 1h. Alors avec Roland Pérez, si c'est du lundi au jeudi, et avec Valérie Darmon du vendredi au dimanche, sauf exception lorsqu'elle fait des remplacements comme la nuit dernière et la nuit prochaine. Allez, je vous souhaite une excellente nuit, c'est l'heure de la libre antenne.
Bonsoir Michael.
Bonsoir, je suis
enchanté de vous connaître.
Mais moi aussi, Michaël, voilà. On fait connaissance par la voix de la radio dans cette Libre Antenne sur Europe 1. Vous vouliez nous parler d'une triste histoire aussi, celle qui vous a privé de vos trois filles.
Oui, qui me prive de mes trois filles depuis maintenant bientôt 5 ans.
Voilà,
et à la suite d'une possession d'une belle-mère et de violences policières.
Et du décès de votre épouse, enfin de la maman de vos trois enfants.
C'est surtout. Ça, la maman de mes enfants est décédée.
Oui.
Elle a été, suite à plusieurs enquêtes de ma part, pour moi, assassinée. On veut absolument me dire qu'elle s'est suicidée, mais on ne peut pas se suicider avec 2 balles dans la tête et 2 coups de couteau dans le ventre, au niveau du foie. Ça a commencé, je vais vous raconter.
Oui, c'est ça. On va commencer peut-être par le début. Comment vous avez rencontré
votre... J'ai rencontré ma femme dans mon salon de coiffure, comme j'ai indiqué il y a quelques mois.
Vous êtes coiffeur, donc, hein ?
Je suis coiffeur maquilleur pour la haute couture.
D'accord.
Et j'avais un salon de coiffure en plus dans le 17e. Je sors de très grandes maisons parisiennes. Je suis très connu et je n'ai pas du tout eu de problème toute ma vie.
Allô ?
Oui, parce que ça. Alors, je vous dis, je n'ai pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui à aucun niveau. Et il y a quelques années, ma belle-mère n'a pas supporté que ma femme, qui était fille unique, ait plusieurs enfants avec moi. Je suis de confession juive. Ma femme voulait à tout prix être juive et s'est convertie au judaïsme. Et ma belle-mère n'a pas supporté du tout, et n'aime pas du tout cette relation, puisqu'elle m'a fait plusieurs fois les réflexions, vous les juifs, bon, c'est pas un problème, j'ai toujours fermé mes oreilles. Cette femme venait régulièrement dans mon salon de coiffeur se faire coiffer, à mes clients souvent me critiquaient.
Vous parlez de votre belle-mère.
Ma belle-mère, oui. Souvent me critiquaient.
Vous étiez mariée,
oui, c'est sûr. Oui. J'ai vécu 3 ans avec elle. Et après, elle a décidé de vouloir se marier. J'étais déjà mariée une première fois. J'avais 2 enfants. Et quand on s'est mariés, elle m'a dit « Je veux des enfants ». J'ai accepté, malgré que j'avais 50 ans et elle 30 ans, de faire d'autres enfants.
Vous aviez 20 ans de différence, donc, hein ?
Non, on avait 30 ans, pardon. J'ai fait une erreur. Elle avait 20 ans et moi, j'avais 50 ans.
D'accord, ok, pardon.
Voilà. Okay. Mais croyez-moi, nous avions une entente parfaite. Pendant 10 ans. Nous avons eu 3 enfants magnifiques, je peux dire les noms, j'ai pas peur.
Non, mais
c'est Yona, Galit, Anna. Bon. Alors, Yona, c'est la colombe, Galit, c'est la petite vague, et Ava, c'est l'amour.
C'est des prénoms israéliens d'ailleurs.
Israéliens, oui. Je suis israélien et mes filles doivent être israéliennes, mais là, on va y revenir. J'ai eu beaucoup de succès dans mon centre de coiffure, je sors d'une très grande boîte. J'ai fait les plus beaux défilés de haute couture jusqu'à aujourd'hui. Et cette femme était assez jalouse parce que j'avais une réussite télévisée, une réussite partout. Et elle était jalouse de voir sa fille se construire parce que c'était sa seule fille unique. Et il s'est passé une chose, c'est qu'elle commençait à rentrer dans notre vie. Et nous, après avoir eu les 3 enfants, à un moment donné, nous avons décidé de partir en Bretagne. J'ai vendu mon salon de coiffure et je suis parti en Bretagne parce que j'en avais marre, moi et elle. On est parti dans une ville charmante qui s'appelle Quimper-Guézenec. Nous sommes partis grâce à Jean-Pierre Pernaud qui, à l'époque, disait « Repeuplez vos villages ». J'ai monté le plus beau salon de coiffure de Bretagne et c'est tombé en même temps que le Covid.
Ah.
Nous avions une vie de grand luxe. Ça veut dire que pour 600 euros, on avait une villa avec des terrains, des chevaux, tout ça. Et un jour, ma belle-mère, ayant vu qu'on passait à la télévision, que Vincent, etc., a appelé le maire sans arrêt, en lui disant que j'étais un escroc, que j'étais un voleur, qu'il ne fallait pas me garder et tout. Et là, je me fais renvoyer.
Vous faites renvoyer, c'est-à-dire du salon de coiffure ?
C'était de la ville.
Ah, de la ville ?
Il a eu peur. Mais quelques mois après, il s'est aperçu qu'en faisant des questions sur moi, il s'est aperçu que j'avais ni casier judiciaire, ni rien, que c'était du mensonge. C'est une femme qui adore la diffamation. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de faire de la diffamation.
Une simple déclaration comme ça, enfin un simple message envoyé comme ça au maire, celui-ci avait pris la décision de vous
exclure. Ah, c'est pas une fois qu'elle a appelé. Elle a harcelé 4 fois.
Oui, mais enfin, ça prouve son déséquilibre, si je peux me permettre. Mais, oui. mais le maire, qu'est-ce qu'il vous a dit? J'ai pas très bien compris. Comment il a pu lui demander de partir?
J'ai appris des nouvelles sur vous, je ne peux pas vous garder. Je vous demande de repartir.
Oui,
c'est j'avais terminé le salon de coiffure qui j'ai mis 8 mois pour le faire construire. Sachez que c'est un des plus beaux salons de coiffure de Bretagne. J'y ai fait des travaux magnifiques. Sachez que je sors d'une très grosse boîte, Faubourg Saint-Honoré. Je sors des plus grandes de ce monde. J'ai fait les plus belles collections de ce monde. J'ai quand même un nom réputé dans mon travail. Et je retourne à Paris avec ma femme et mes 3 enfants.
Donc vous quittez la ville de Quimper, c'est Quimperlé, c'est ça?
Non, c'est Quimper-Guézenec.
Guézenec.
Vraiment, franchement, c'est une ville magnifique. Je pense que c'est une des plus belles villes.
Vous laissez le salon de coiffure que vous veniez d'acquérir? Vous le revendez? Qu'est-ce que vous faites?
Non, je ne revends pas, puisque c'est le maire qui a tout investi.
Ah, d'accord.
C'est lui qui a tout payé. Mais il m'a laissé choisir toutes les matières que j'ai voulues.
D'accord. Donc
j'avais fait une galerie de tableaux au premier étage. Je suis collectionneur d'œuvres d'art. Et en bas, j'avais fait mon salon de coiffure.
Donc nous repartons
à Paris.
Le maire va garder le salon de coiffure et vous repartez à Paris.
Et il a donné à quelqu'un d'autre très vite parce qu'il fallait ouvrir le plus rapidement possible vu que le Covid était terminé. Et quand je suis arrivé à Paris, ma belle-mère a commencé une très grande guerre car son but, c'était de récupérer sa fille. Arrivé les 30 ans de ma femme, je vais aux toilettes et dans les toilettes, j'entends « J'ai été voir un avocat. Tu sais bien que ta grand-mère, elle est morte. Je te donnerai 500 000 euros si tu quittes ce juif. » J'ai été choqué. J'ai dit « Je ne veux pas me bagarrer pour les 30 ans de ma femme. » Je sors et elle commence à m'humilier devant mes 3 filles. Mes filles étaient très gênées. Descendent en bas jouer.
Elles avaient quel âge, madame, vos filles? Moins de 10 ans, du coup, oui.
Pas du tout, mes filles. Aujourd'hui, il y en a une qui a 7 ans, une qui a 10 ans, championne de France de football, avec les 15 ans, et une qui a 12 ans.
Donc et je parlais de l'âge de l'époque quand vous entendez ce message.
Veut dire qu'il y a 4 ans. Mm-hmm. Alors vous enlevez sur cet âge d'aujourd'hui 4 ans.
J'ai compris. Et alors
j'arrive chez moi, il me vient une chaleur terrible, mais j'ai eu le Covid. Et je ne sais pas comment je l'ai eu, parce que je faisais très attention. Et là, je pars à l'hôpital pendant 2 mois entre la vie et la mort.
Ah, ouais.
Oui. Et là, j'apprends que ma belle-mère a été voir l'assistante sociale de l'hôpital, a demandé si on ne pouvait pas m'interner chez les fous. Vous vous rendez compte? L'assistante sociale dit pas du tout, c'est un homme qui rigole avec tout le monde, c'est un homme qui a beaucoup d'humour, c'est un homme qui est très charmant, je ne vois pas pourquoi vous demandez juste pareil.
Elle n'a pas qualité pour demander un internement, enfin, c'est pas...
Oui, monsieur, elle m'a demandé un internement. Et là, je sors, je demande à sortir le plus vite possible de l'hôpital, j'arrive en brancard chez moi, et ils appellent la police et ils disent que je suis un homme violent. Et là...
Qui appelle la police, pardon?
Ma belle-mère et ma femme.
Ah, votre femme, du coup, se range du côté de votre belle-mère, du coup.
Oui, parce qu'elle a toujours été prise sous l'emprise de sa mère, mais pendant 10 ans, j'ai pu l'empêcher, puisqu'elle était malheureusement sous l'emprise de sa mère depuis le début.
C'est une fille unique?
C'est une femme qui est absurde, qui est vraiment, qui est bipolaire paranoïaque.
Votre femme était fille unique?
Oui. C'est sa seule fille qu'elle a eue très tard. Et elle disait toujours à ma clientèle, il m'a volé ma fille. Et ma clientèle lui disait, mais madame, pourquoi vous êtes là à vous faire coiffer si vous ne pouvez pas le voir? Je l'ai amené dans les plus beaux cabarets de Paris avec ma femme au début. Je l'ai amené dans toutes nos fêtes, dans tous nos shabbats, dans tout. J'ai toujours respecté quand on était en Bretagne. J'appelais mes enfants, je disais, allez dire bonjour à votre grand-mère tous les jours. J'ai toujours respecté cette femme vis-à-vis de ma femme pour ne jamais avoir de problème avec ma femme. Vu que moi j'étais plus âgé, j'avais plus d'expérience de la vie de couple. Vous comprenez ce que je veux dire?
Vous aviez l'âge de votre belle-mère?
Non. Pas du tout, elle a 15 ans de plus que moi.
D'accord. Et elle était mariée? Enfin, elle était
non. Non. Elle a eu le père de ma femme, à qui elle a fait la même chose que moi. Elle l'a accusé de viol sur son enfant qui avait 6 mois. Donc elle lui a fait une vie amère et elle n'a pas vu son père pendant plus de 20 ans, ma femme. Mmh. Et moi, arrivé, si vous préférez, malade, arrivé chez moi, en brancard avec deux brancardistes, on me met dehors de chez moi la police et me fracasse de coups devant tous mes voisins.
Mais qui vous fracasse de coups ?
Les policiers.
Mais pourquoi ils vous fracassent de coups ?
Parce qu'ils laissent pas rentrer chez moi, ils disent que je suis un homme violent. Je n'ai aucun casier judiciaire, aucune note de d'écartement de l'appartement, aucune note, ni plainte, ni rien.
Et donc vous ne pouvez pas rentrer chez vous ?
J'appelle mon notaire. Il lui dit, c'est l'appartement familial, vous ne pouvez pas le mettre dehors si vous n'avez pas d'ordre. Allez vous faire foutre, ils lui ont raccroché. Ils m'ont mis dans la rue. Ils m'ont fracassé devant mes enfants qui venaient vers moi, mais laissez notre papa. Ils ont pris mes enfants par la peau des fesses, ils les ont rentrés dans la maison. Même mon chien, il a couru, il allait les mordre.
C'est fou, cette histoire.
Je me suis retrouvé dans la rue, tous les voisins, et le rabbin de Sarcelles passe. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites à cet homme ? Je le connais, c'est un de nos fidèles, il est très sérieux, il est très donateur, il est très aimant de sa femme et de ses enfants, je ne comprends pas ce que vous faites. Non, il est violent, il n'a pas du tout violent cet homme. Ils m'ont payé l'hôtel, je me suis retrouvé à l'hôtel sans un sou.
Qui vous a payé l'hôtel, vos voisins ?
Eh bien, mes voisins. Mmh. Ils ont été, vous savez, à Sarcelles, malheureusement, j'avais amené ma femme à Sarcelles pour qu'elle finisse sa conversion du judaïcité. Et là, je me retrouve après 15 jours de réessayer de rentrer chez moi. Et voilà que la police me fracasse de coups de nouveau devant mes enfants. Parce que ma fille et ma grande fille qui est d'un premier mariage m'avaient ouvert la porte pour que je rentre. Et là, elle a rappelé la police en disant que j'étais un homme violent. Est-ce que j'apprends que durant l'espace de temps que j'étais à l'hôpital, ma femme couchait avec le patron de la police de Sarcelles? Je l'ai appris par mes voisins.
C'est fou. Mais vous, jusqu'à ce moment-là, vous dites que vous n'aviez plus d'argent. Où étaient vos papiers ?
Je n'avais aucun problème avec
non,
ma femme.
Mais, oui, je sais, mais financièrement, vous n'aviez plus vos...
Ah, je n'avais pas d'argent, monsieur.
Pourquoi ?
Ce sont mes tantes, ce sont des amis qui m'ont aidé.
Mais vos cartes bancaires...
Ma femme n'a rien voulu me rendre. Je n'ai jamais remis les pieds chez moi pendant plus de 3 ans.
Et à l'hôpital, vous étiez parti sans rien non plus, donc vous n'aviez rien.
Ça, mais c'est normal, monsieur. Sachez que je suis collectionneur de montres de grande valeur. Ils étaient tous dans mon coffre à la maison. Je ne les ai jamais retrouvés, hein. Je vous dis tout de suite. Hein.
Et donc vous n'avez pas pu prendre d'avocat pour tenter de...
J'ai pris un avocat. Et là, on a commencé. La première des choses, c'était l'avocat des affaires familiales. Mmh. Dans les rapports des affaires familiales, il y a écrit que j'ai violé mes 3 filles, que le soir je mets un couteau sous la gorge de mes filles et que je l'ai passé par la fenêtre. Vous m'entendez bien, hein ?
Oui, je vous entends.
Que je l'ai passé par la fenêtre, une à une, et je leur demandais que si elles ne faisaient pas certaines choses, je les tuerais.
Mais qui ça ressort de quoi ? Des déclarations de vos enfants ? Des déclarations de votre
femme ? Non, des déclarations de ma belle-mère.
Enfin, votre belle-mère, elle vivait pas dans... Elle vivait pas
et
dans
de le... ma mère ? Si, parce que si vous préférez, au juge des affaires familiales, le premier procès, ma belle-mère a mis 30 lettres contre moi et son compagnon a mis 27 lettres contre moi.
Vous
et
dire,
moi, j'ai mis qu'une lettre.
Des lettres ou des attestations ?
Des attestations. De même.
De témoignages ou de même ?
De même.
Ah, des attestations.
Durant les 10 ans que j'ai vécu avec leur fille.
D'accord.
Que de la diffamation. Alors là, le juge, j'ai gagné mon procès, a dit tout ça, c'est des histoires. Il a ni l'air ni la chanson. Elles ont fait des examens. Elles n'ont jamais été violées, ces filles. Durant tout ce laps de temps, ils ont maintenu que je violais mes enfants.
Et donc, vous ne voyez plus vos enfants ?
Alors là, le juge ne m'a pas interdit ni écartement des enfants. Mais ma belle-mère se décide de faire comme elle a fait au père et monte sa fille. Parce qu'au début, ma femme voulait que je voie les enfants, mais elle ne voulait pas, ma belle-mère. Elle avait une emprise très forte. Je n'ai pas vu mes enfants pendant 1 an. J'étais d'hôtel en hôtel, des hôtels sociaux. Je n'avais plus d'argent. je ne pouvais plus accéder à rien du tout. Tout était bloqué.
À l'époque, quand vous étiez revenu à Paris, vous ne pouviez, vous n'aviez pas repris de travail. Vous avez eu le Covid et là, vous n'avez pas repris de travail.
Non, je n'ai pas repris de travail, mais j'étais sur le point de, si vous préférez, j'étais collectionneur d'œuvres d'art et tout était dans une galerie, dans des quarts de meubles. Et il y avait une dette de plus de 10 000 euros. Je ne pouvais pas la payer parce que j'avais pas d'argent.
D'accord.
Et là, le premier pénal, et là, on décide des médiations au niveau, comment ça s'appelle, à Pontoise. Ma belle-mère ne me laisse pas faire mes médiations.
Mais, excusez-moi, votre femme, elle a plus de 30 ans, c'est elle la mère des enfants.
Mais elle était impressionnant prise puisqu'elle se prostituait après.
Mais même si elle était
sous... Elle se prostituait, monsieur.
Attendez, mais même si
elle était... Et j'étais pas divorcée, que j'apprenais par des sites internet, par des amis, par la police, que ma femme se prostituait. Et que la maquerelle, c'était la maman. Parce qu'il y a des filles qui travaillaient avec elle dans un studio et qui m'ont appelé pour me dire c'est elle qui ramassait l'argent. Et elle avait loué l'appartement du foyer conjugal. Pour plus que je ne... Elle avait marqué, comme ça, il ne rentrera plus chez lui.
Elle avait changé le bail, vous voulez dire, le nom du locataire.
Non, c'était pas le bail, c'est moi qui l'ai acheté l'appartement, monsieur.
C'est un appartement que vous aviez acheté à Sarcelles.
Oui, et que j'avais mis au nom de ma femme pour la protéger de mes premiers enfants, pour pas qu'elle se retrouve avec 30 ans d'écart un jour dans la rue. Je l'ai mis à l'abri.
Oui, donc vous n'aviez plus de foyer, plus de situation, plus d'argent. Et vous
plus d'argent, plus de foyer, plus rien du tout.
Confronté à ces procès multiples. Et c'est pas votre...
J'ai eu plusieurs procès, et par contre, le juge des enfants, il était au courant que ma femme se prostituait. Elle avait des audios. Mais ma femme, entre-temps, elle est partie dans un foyer de femmes battues, où elle n'y est pas restée longtemps, qu'ils se sont aperçus que c'était des mensonges. Ma belle-mère avait fait la même chose. Hein.
Elle est partie vivre chez un Turc. Avec vos trois filles, elle est partie dans ce foyer.
Oui, avec mes trois filles. Elle avait l'appartement de 150 mètres carrés à Sarcelles, d'une splendeur comme vous ne pouvez pas imaginer. Et là, elle continue sa prostitution. Elle remonte sur Paris. Elle fait la connaissance d'un policier qui lui loue un appartement 200 boulevard de Courcelles.
Ouais.
Et là, boulevard de Courcelles, je ne savais pas qu'elle était là. Un jour, je reçois un coup de fil. Bonjour, ici la brigade de je ne sais pas quoi. Madame Rouet est décédée. Alors je lui dis, vous permettez 2 secondes.
On parle de votre épouse qui est décédée. Hein.
Oui, ma femme est décédée, mais moi, je n'ai pas su que c'était ma femme. Elle me dit, Madame Rouet, moi, ma femme s'appelle Grimbeuf, elle n'est pas divorcée. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que...
C'était son nom de jeune fille qu'on vous a donné, alors?
Comment?
C'était son nom de jeune fille qu'on vous a donné?
Oui, c'est ça. Et d'un seul coup, mon frère me dit, rappelle la police. Vois qui c'est qui est décédé, ça ne peut pas être Madame Rouet, la mère. Appelle. J'appelle, on me dit, votre femme est décédée. Et puis,
dans quelle circonstance alors ?
Elle me dit, est-ce que vous pouvez venir à la police ? Je lui dis, avec plaisir. Je me pointe, je me mets à pleurer parce que c'est tout à fait normal, ça me faisait mal au cœur, elle avait 30 ans. Mourir à 30 ans, c'est un peu jeune. Elle avait 3 enfants. Et là, je leur demande de quoi elle est morte. C'est pas votre problème. Je dis, comment c'est pas mon problème? Je suis le mari. Non, Madame Rouet, elle dit que vous étiez séparés depuis plus de 3 ans. Mais pas du tout, depuis 4 mois. Et qui vous dit que votre femme a voulu que vous sachiez de quoi elle est morte et tout? Là, j'ai été maltraité par la police. Pour la première fois. Là, entre-temps, j'ai fait mon enquête. Et j'ai voulu savoir où elle était. Où elle était, son corps était exposé. Je vais à l'autopsie médico-délicale de Paris par intelligence, on me dit « Oui, votre femme est bien là ». Je montre comme quoi je suis marié, je vais chercher un acte de décès où il y a écrit « Michael Grimbert, époux de Madame Tatata, non divorcé ». Et là, je leur dis, en cas où il y ait l'enterrement, je veux faire l'enterrement parce qu'elle s'est convertie au judaïsme et je compte lui faire un enterrement comme elle désirait. Et là, je reçois une lettre de l'hôpital où il y a écrit « Son mari était très violent avec elle, elle en est arrivée à se suicider et violer ses trois filles. » Son autopsie a écrit ça. Son autopsie de l'hôpital et non l'autopsie de la police.
C'est fou comment ça paraît complètement surréaliste que vous.
Non mais monsieur, c'est la vérité, j'en ai toutes les preuves.
Non mais que sur un certificat fait par une autorité médicale sur l'autopsie.
Mais ce n'est pas fini, monsieur. Comment il est possible qu'une femme qui se serait suicidée, on lui a prélevé 13 organes sans mon autorisation. J'avais une feuille depuis longtemps qu'elle ne voulait pas donner ses organes. Et la mère, elle a donné ses organes. On va revenir à ça bientôt. Là, je comme demande à voir le professeur qui l'a reçu quand elle est morte. Elle est arrivée vivante et à 10h10, le procureur de la République a demandé de l'éteindre et de prélever les organes. Quand on prélève 13 organes, on ne laisse pas à l'autopsie médico-légale 3 mois un corps. Comment peut-on travailler sur un cas qui n'a plus d'organes? Et si elle s'était suicidée, ça ne prend pas 3 mois. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire ou pas?
Oui, oui, non, mais je comprends. Mais tous ces éléments-là, j'imagine que vous les avez fait connaître à la police.
Oui, mais la police n'a jamais vu vouloir me reprendre quand j'avais des éléments positifs pour eux. J'ai été exclu d'enquête.
Vous n'avez pas porté plainte contre X?
Si, ça a été mis sans suite. J'ai 76 sans suite depuis. J'ai été fracassé devant ma porte et on a essayé de me tuer sans suite. Il y a les photos, les caméras, sans suite. Je n'ai eu que des sans suite. 70 plaintes sans suite. On m'a mis 24 heures en garde à vue pour viol sur mes enfants. Et dans le premier jugement, il y a écrit « n'a pas violé ses enfants ».
Dans le jugement aux affaires familiales, hein, que vous nous parliez tout à l'heure, oui.
Voilà, c'est ça.
Mais alors, puisque ce jugement vous donnait le droit de voir vos enfants, indépendamment de ce qui s'est passé pour votre épouse, pourquoi vous n'avez pas pu voir vos enfants ?
Ma belle-mère ne m'a pas laissé voir mes enfants. La première année, il faisait partie d'une association qui s'appelait Espoir. Espoir a travaillé pendant un an. Et dans le rapport d'Espoir, après un an, ne nous a jamais laissé faire de médiation avec les enfants. Les enfants étaient montés contre le père, car il n'est jamais vu qu'une des filles, à qui le père n'a rien fait, ne veulent pas voir leur père.
Parce que vos trois enfants, depuis le décès de votre épouse, on a bien compris les circonstances troublantes du décès, ont été remises à la grand-mère, du coup ?
Oui, ils ont été remis pendant un an à la grand-mère. Et là, la société Espoir demande un écartement de la grand-mère pendant un laps de temps pour qu'on puisse travailler avec le père et les enfants. Là, il y a un jugement. Et non. On enlève rapidement les enfants, par contre, de chez la grand-mère, parce qu'ils s'aperçoivent qu'elle est une fille. Mais on lui laisse toujours les médiations à elle et à moi.
Ah,
arrivé, il les place dans un foyer rue Manin. Et moi, j'avais demandé de les placer dans un foyer de confession juive pour qu'elles puissent continuer la religion juive, parce que la grand-mère, pendant l'année qu'elle avait chez elle, la juge s'est permis de lui donner l'autorité parentale. Alors, elle les a convertis au judaïsme, au catholicisme. Elle les a amenés au catéchisme. Comment j'ai su ça? C'est que quand elles sont rentrées à Manin, elles ont demandé d'aller à l'église.
Oui, enfin, ça ne portait pas de danger sur leur équilibre psychologique. Ce qui était important, c'était le bien-être de ces enfants.
L'équilibre psychologique des enfants, c'est qu'elle avait laissé un audio, ma femme, elle leur faisait, et ça c'est marqué dans les rapports, faisait écouter l'audio de leur mère entre 5 et 6 fois par jour pendant l'année où ils étaient chez eux.
Qu'est-ce qu'il disait, cet audio ?
Alors ça, jusqu'à aujourd'hui, je demande à l'écouter, ils ne veulent pas me le faire écouter. Car moi, si j'avais l'audio de ma femme, comme je la connaissais par cœur, j'aurais pu vous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Sachant qu'elle s'était bagarrée violemment avec sa mère la veille, et qu'en rentrant chez elle, il y a eu de grandes bagarres à sa porte. Parce qu'une fois que j'ai eu l'adresse de ma femme, je me suis pointé à l'adresse et tous les gens sont venus de mon côté et m'ont raconté « Cette femme ne s'est pas suicidée, elle a été assassinée ». Tous les voisins m'ont dit ça.
Michael, vous savez, on va arriver peu là, à minuit, il va y avoir des informations. Où vous en êtes aujourd'hui, Michael?
Aujourd'hui, justement, c'est là où il faut vous dire, ils sont rentrés dans ce foyer. 3 mois après, on m'appelle, on me dit qu'ils ont fait un film à caractère pornographique. Je vois ce film. Je fais une plainte à la police qu'à aujourd'hui, ça veut dire 2 ans, ça n'a pas été plaint, ça n'a pas été traité.
Attendez, ce
film. Chaque fois que je vais à la police, je suis jeté comme un chien pourri.
Film à caractère pornographique, ça veut dire quoi? Vos enfants ont quel âge aujourd'hui?
Mes enfants?
Vos filles ont quel âge aujourd'hui?
8 ans et 10 ans dans ce film.
Comment dans un foyer on peut faire un film?
Mais monsieur, il est là le film, je l'ai vu.
Mais comment vous avez eu accès à ce film?
Malheureusement, le directeur de l'école, il a dû vite le donner à l'ASE. Il n'a jamais été traité depuis 2 ans.
Michael,
et je vais régulièrement au commissariat de police et on m'envoie sur les roses.
Michael, je vais pas mettre, c'est pas mon rôle hein, de mettre en doute tout ce que vous nous dites, mais je vous avoue que c'est quand même un peu délirant tout ce
monsieur,
que vous nous dites.
Monsieur, j'ai un avocat, il pourrait vous tout vous dire.
Non, mais vous
même
avez
lui,
pas,
je Michael, suis à 3 Michael, avocats qui vous, ont été Michael, menacés par un procureur.
La libre antenne n'est pas faite pour que vous me convainquiez, bon, on est là pour raconter
monsieur,
l'histoire,
mais
je vous avoue
maintenant,
que c'est
maintenant, c'est pas ça le plus important. C'est qu'on me laisse plus voir mes enfants. Mes enfants ne veulent plus être juifs, ne veulent plus me voir, ils veulent aller vivre chez leur grand-mère. L'ambassade d'Israël me demande tous les jours de faire les passeports israéliens de mes enfants, parce que quand vous êtes israélien, vos enfants sont israéliens automatiquement. L'État me refuse et m'ont bloqué mes enfants à Oudouane et ne me laisse plus voir mes enfants. Et s'ils veulent me voir, eh ben ils me voient, mais sinon c'est pas la peine. On m'a enlevé toute visibilité.
C'est très...
L'ASE y est pour quelque chose. Si vous écoutez l'émission que j'ai faite il y a quelque temps, vous comprendrez.
Oui, je sais, on parle souvent.
Il y a eu un jugement lundi. Et lundi, j'étais hors de moi. Ils ont pris le parti pris de la grand-mère. C'est un nouveau juge qui a été mis en dernière minute. Et je ne sais pas pourquoi on a changé de juge en dernière minute. J'ai rencontré l'ancien juge dans les couloirs. Il m'a dit médiatiser.
Michael, je propose qu'on se reparle plus tard et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous redonner des nouvelles. Et écoutez, oui, continuez à médiatiser dans ce cas-là. Merci Michael, en tout cas, de nous avoir rejoints sur cette libre antenne sur Europe 1. Merci à vous.
Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit. Je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile. Quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Partent dans les airs, dans le lait sûr.
Bonsoir Jeannine.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. De quoi voulez-vous nous parler ce soir ?
Ah, c'est pas facile parce que je voudrais parler de la difficulté d'être si seule, surtout à cette époque-là, où on parle que de fêtes, que de repas, que de choses très agréables. Mais quand on est seul, et puis que je sais que j'ai encore plus de 15 jours à passer totalement seule, sans voir personne. D'habitude, je vois pas grand monde non plus. Je vois un ami le jeudi, mais là, il est en famille. Et puis, j'ai jamais de visite. C'est vraiment difficile, difficile. Et puis, il y a toujours un crève-cœur qui est arrivé en plus, avec les difficultés matérielles. Je vais être obligée de vendre ma maison en viager pour pouvoir quand même finir la vie ici.
Alors, vous habitez où, Jeannine ?
Alors, j'habite en Franche-Comté. J'ai bientôt 77 ans, mais je ne les fais pas parce que je suis tout à fait, paraît-il, bien conservée. J'ai des grands cheveux longs bruns, ce qui ne se fait pas beaucoup chez les dames de cet âge-là, mais je ne suis pas une vieille dame.
Ah, très bien. En tout cas, vous ne vous vivez pas comme telle. Et on l'entend à votre voix.
Ah non, pas du tout.
On sent le dynamisme.
Oui. J'ai pas du tout ni les idées. Enfin, il y a quand même des personnes âgées qui ont des bonnes idées. Il n'y a pas que des ronchons. Mm-hmm. Mais c'est pas du tout ma façon d'être. Mais je suis vraiment, dans certains cas, carrément désespérée. Et aujourd'hui, ça me fait une différence dans ma vie de tous les jours de pouvoir vous parler, puis de parler aux auditeurs. Et j'espère que certains auront des réactions, envie de me parler, parce que j'ai besoin de parler, et surtout d'écouter quelqu'un, d'avoir des humains, parce que je vis toute seule, et tout le temps toute seule, et puis les humains que j'ai avec moi, ce sont mes chats.
Ah, vous avez combien de chats ?
Oh, mes chats, j'en ai 4 avec moi dans la maison, il y en a autant qui sont dehors dans la journée avec des petits, puis la nuit ils sont au chaud. Mais j'en ai en tout, il doit y avoir 9, plus des petits visiteurs qui viennent bien à la cantine.
Ah oui, donc ceux qui passent et ceux qui vivent avec vous. Vous avez des enfants ou pas, Jeannine ?
Non, je vous ai dit, je suis toute seule.
Je vous pose la question parce que vous auriez pu avoir des enfants qui ne vous voient pas. C'est pourquoi je vous posais la question.
Oui, je sais que malheureusement ça arrive dans certaines familles, mais moi j'ai pas d'enfants non plus. Je suis en Franche-Comté. Oui. Mais je suis pas d'origine de Franche-Comté. Ma famille, le peu que j'ai, ils sont dans le Berry. Oui. Et puis, bon, bah, je vois personne pratiquement. Et voilà.
Vous vous êtes perdu de vue avec la famille qui reste ?
Perdu de vue, c'est pas le cas, mais un petit peu ignoré. Oui. Pas de mon fait. Hein.
Oui. Et votre ami dont vous parliez que vous voyez le jeudi, par exemple, il ne pouvait pas vous convier à Noël avec sa famille ?
Ah non, 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 non. Bah, c'est un ami de 40 ans, un ami du temps du travail. Bah, il a sa famille, il est avec sa famille et ses enfants. Et ça non, on ne mélange pas ça. Puis c'est pas dans nos habitudes. Et je peux même pas prendre. Enfin, il le sait, mais je ne comptais pas du tout là-dessus, ça c'est normal.
Oui, et vous connaissez pas d'autres personnes dans votre région, dans votre ville ?
Ah, bah, je connais des gens, mais quand j'ai quitté le travail, j'ai fait énormément de choses dans le milieu associatif et culturel, je voyais plein de gens, et puis quand je dis que je suis toute seule, ça en étonne certains, mais pas moi, parce que je connais la nature humaine, j'ai fait et vu beaucoup de choses, beaucoup de gens, mais je vois plus personne.
Donc plus personne n'a entretenu les liens avec vous non plus, Jeannine.